Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Te Deum d'action de grâce de fin d'année, messe de la solennité de Marie, Mère de Dieu, 46e journée mondiale de la paix, rassemblement des jeunes de Thésée, Rome vit des heures intenses alors que le monde franchit le cap d'une nouvelle année. Benoît XVI affirmait que le chrétien était un homme d'espérance dans les ténèbres du monde. L'Église catholique de France, une nouvelle fois au cœur des critiques dans l'affaire des sans-papiers de Lille, vous entendrez l'évêque auxiliaire de la ville. De nombreux chrétiens sont engagés dans des associations, mais l'Église ne peut pas se laisser enfermer dans une logique d'occupation. Au sommaire également, le Nigeria, une fois encore bouleversé par un massacre, mais les chrétiens tiennent bon, nous a dit le président de la conférence épiscopale. Bonne et heureuse année 2013 à toutes et à tous. À 9h30 ce mardi 1er janvier, Benoît XVI présidera une concélébration eucharistique en la basilique Saint-Pierre. La messe de la solennité de Marie, Mère de Dieu, la plus importante des festivités mariales de l'année liturgique. Une fête qui coïncide depuis plusieurs années avec la journée mondiale de la paix instituée par Paul VI. Le pape aura à ses côtés six hauts responsables de la curie romaine, dont le cardinal Bertone, secrétaire d'état du Saint-Siège, et le cardinal Turkson, président du Conseil pontifical Justice et Paix. Les textes de la prière universelle ont été préparés par les franciscains de la custodie de Terre Sainte. Après la messe, Benoît XVI récitera l'Angélus avec les personnes rassemblées sur la place Saint-Pierre. Radio Vatican assurera, comme toujours, la retransmission en direct de ces événements. Comme chaque année, le pape a achevé l'année civile par la célébration des vêpres, suivie du traditionnel Te Deum d'action de grâce, avant de se recueillir devant la crèche. C'est la dernière liturgie de l'année 2012. Elle se déroule en présence des autorités civiles locales, dont le maire de Rome. Pour Benoît XVI, le Te Deum renferme une sagesse profonde qui nous fait dire que malgré tout, il y a du bien dans le monde et que ce bien est destiné à triompher. Puisque le mal fait plus de bruit que le bien, il ne faut pas s'en tenir aux nouvelles. Si on veut comprendre le monde et la vie, il faut savoir s'arrêter en silence pour penser et méditer, guérir les inévitables blessures de la vie et analyser les événements en profondeur, affirme le pape. La foi en Jésus-Christ permet de sortir des sables mouvants du péché et de recommencer. Des paroles prononcées alors que l'année 2012 au Vatican restera marquée dans les esprits par l'affaire Vatilix qui a profondément affecté le pape et bouleversé la curie romaine. Dans cette tempête, Benoît XVI a offert une image de courage et de fermeté. C'est aussi l'avis de Jean Mercier, journaliste à l'hebdomadaire chrétien La Vie.
Vous savez, Benoît XVI, c'est un augustinien, c'est-à-dire il est très inspiré par la théologie de saint Augustin qui insiste beaucoup sur la grâce, c'est la dépendance radicale par rapport à Dieu et surtout quand on est pécheur. Alors, le péché de l'Église, si on veut dire, on a été servi aussi en 2012 avec l'affaire du Vatilix, où on a finalement, c'est très douloureux, cet épisode-là qui est en train de se refermer. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme Benoît XVI était un théologien de la grâce, si vous voulez, il a profité de ça pour faire une véritable catéchèse. Il a dit, ben oui, l'Église, elle est pécheresse, etc. Mais on va rebondir et finalement, plus on découvre nos fragilités, nos limites et nos ombres, plus on a besoin de l'aide de Dieu. Et donc, quand on suit un peu ce qu'il écrit, ce qu'il essaie de faire passer, aussi bien dans ses catéchèses que dans ses homélies, il essaie de nous faire traverser l'épreuve qu'on a vécue et de nous montrer finalement aussi le positif qu'on peut en retirer, c'est-à-dire de s'appuyer toujours davantage sur Dieu.
Plus que jamais, Benoît XVI demande aux chrétiens, avec cette année de la foi, cette année donc de la nouvelle évangélisation, d'être finalement intègre, de refuser le compromis.
La question de l'intégrité, c'était au cœur de son pontificat. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, ce bilan de 2012, c'est une manière de faire une sorte de bilan de ce qu'est Benoît XVI, de ce qu'il veut faire au sein de l'Église, c'est-à-dire quand même purifier un certain nombre de souillures. On va dire que quand il a, en 2005, lors du chemin de croix, quand il a prononcé cette méditation où il dénonçait les souillures de l'Église, je pense qu'il pensait pas simplement au dossier de pédophilie qu'il devait voir s'accumuler sur son bureau en tant que préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, mais aussi finalement à toutes ces compromissions et toutes ces tiédeurs et ces facilités qui sont celles des chrétiens aujourd'hui. Et d'une certaine façon, il est en train de remettre d'aplomb à travers des phases difficiles, parce que je pense que la vérité, il faut la regarder en face. Donc cette année, on a eu ce scandale au cœur du Vatican qui était quand même bon, finalement peut-être pas si grave que ça, parce que ça n'a pas touché la personne du pape, mais ça a montré que il y avait des conflits, qu'il y avait des combats, que c'était complexe. Et voilà, moi je pense que des expériences comme ça, et la voix de Benoît XVI nous encourage à ne pas nous décourager, mais au contraire à faire confiance et à avancer dans la foi. Et ça, je crois que c'est vraiment un apport que lui s'est particulièrement apporté, parce qu'il a une sorte de calme intérieur face à des choses graves. Et j'ai l'impression qu'il garde une sorte de calme, il ne s'énerve jamais dans sa manière de reprendre ça d'un point de vue théologique. Il y a une espèce de sagesse très réconfortante. En tout cas, dans ce qui me concerne, moi je le vois comme ça.
Plus particulièrement dans le rapport, je dirais, du pape, donc de Benoît XVI avec la France, avec l'Église de France, est-ce que cette année 2012 est une année à part, je dirais, dans finalement ce que le pape attend de cette Église de France? On a l'impression que des choses ont été précisées à la faveur de certains débats sur des questions de société.
Moi j'ai été frappé de ce qu'il a dit aux évêques venus en visite à Dlimina. Il y a eu quand même 3 séries de visites. Je crois que les évêques ont été très heureux de ce qu'ils ont entendu de la bouche du pape. Parfois, la France n'est pas toujours très bien vue au Vatican. Moi, j'en sais quelque chose parce que ça m'arrive d'entendre parfois des choses négatives. Mais là, j'ai l'impression que les évêques sont ressortis en ayant l'impression d'avoir été très encouragés. Aussi parce que je crois que la France, au Vatican, par certaines personnes très clairvoyantes, est vue comme un laboratoire de choses nouvelles, où se passent des choses créatives. Je pense que dans ce rapport-là, il y a eu du positif qui en sort.
Alors, on ne peut pas ne pas évoquer ce fameux Benoît XVI qui, pour la première fois dans l'histoire, tweet. Voilà, c'est un fait de société. Vous le voyez comme avec amusement ou comme finalement quelque chose qui peut avoir du sens?
Moi, je pense que c'est très fort aussi, parce que ça fait partie d'une stratégie de communication nouvelle au sein du Vatican. Twitter, eh bien, c'est vrai que c'est un coup de jeune pour l'image du pape. Alors je pense que l'image, il ne faut pas uniquement raisonner en ces termes-là, mais c'est important aussi. Et qu'il y ait 2 millions de followers en quelques jours, c'était quand même un signe que la parole du pape est très attendue. Et même si c'est sous forme extrêmement condensée, alors ça va complètement à l'opposé de son image, où il écrit des textes, des livres et des homélies plutôt longues. Là, il résume tout en quelques signes. Voilà, la seule chose, c'est que évidemment, le principe de Twitter, c'est que vous avez des gens qui vous suivent, mais que vous suivez aussi d'autres personnes dans une sorte d'échange. Alors, le pape a dit qu'il ne serait pas un follower d'autres comptes Twitter, donc c'est un peu la limite de l'exercice. Mais je pense qu'en termes d'image, en tout cas, c'est excellent. Effectivement, ça fait partie d'une stratégie du Vatican de reprendre la main sur la communication, qui est un univers dans lequel elle n'est pas à l'aise. On ne maîtrise rien dans la communication, si ce n'est ce qu'on aimait, en tout cas. Et là, je pense qu'avec Twitter, ils ont compris qu'il y avait quelque chose, une carte à jouer, en tout cas.
Vous diriez, pour conclure, que Benoît XVI était à la hauteur de sa charge, lourde s'il en est, pour cette année 2012?
Oui, moi j'avoue que j'étais très impressionné par son courage et son calme, sa profondeur théologique. Moi je l'ai vu lors de la dernière homélie de Noël, ne semble pas s'épuiser. Il y a vraiment une profondeur que nous n'avons pas fini de goûter. Et puis je pense que le pape incarne, alors c'est ce que j'ai écrit récemment, véritablement cette médiation aussi pour beaucoup de gens du divin, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont du mal à s'imaginer avoir un lien avec Dieu, et le pape finalement il incarne cette fonction sacerdotale qui consiste à faire la liaison finalement entre le ciel et la terre. Je pense que là, il a une véritable fonction de médiation.
Des propos recueillis par Bernard de Cotigny. Et cette année, à Rome, les chants de Thésée résonnent sous les voûtes des basiliques romaines. 40 000 jeunes, catholiques, orthodoxes et protestants venus de toute l'Europe, participent jusqu'au 2 janvier au pèlerinage annuel de confiance sur la terre, organisé par la communauté écuménique fondée par Frère Roger. Ils sont accueillis par des familles romaines, des paroisses et des maisons religieuses. Parmi eux, une jeune malgache qui étudie à Metz, en France. Obi Adria Mianli a accompagné un groupe de ce diocèse à Rome. Pour la première fois, elle qui a connu l'année dernière les JMJ de Madrid, elle est frappée par la profondeur de la prière, du silence et de l'échange.
Oui, c'est vraiment la première fois que je viens à une rencontre de Thésée avec les jeunes européens. L'année dernière, j'étais au JMJ de Madrid, mais il y avait une grande différence. Le sens de l'œcuménisme, c'est plus précis et ça, j'ai jamais vu ça. Même dans mon pays, là où j'étais à Madagascar, j'ai jamais été dans une rencontre où on rencontre les jeunes catholiques et les jeunes protestants, je veux dire, ou les autres confessions. C'est vraiment une richesse et une grâce de Dieu pour moi.
Qu'est-ce qu'il y a de plus ? C'est l'approche par rapport à la Bible ? C'est la manière de prier ?
C'est la manière de prier et en plus le partage entre les jeunes après. La discussion et le débat par rapport à un thème précis. Par exemple, hier, on a parlé de l'universalité, de la responsabilité, et on a partagé entre les jeunes et on a parlé en anglais, en français et en italien.
Alors moi, mon impression par rapport aux rencontres de Thésée, que ce soit à Thésée ou ailleurs dans le monde chaque hiver, c'est que quand il y a silence, c'est un vrai silence.
Oui.
Quand on parle vraiment, c'est-à-dire que l'on discute vraiment, il y a des séminaires, de l'échange. C'est peut-être cela aussi la différence par rapport au JMJ.
Oui, voilà, exactement. Il y a vraiment un moment où tout le monde est en silence, on prie. Et il y a des moments où on doit beaucoup parler par rapport au débat, au thème qu'on discute. Et voilà, le silence est vraiment important. Ce moment de recueillement, d'intimité avec Dieu, je trouve que c'est très intéressant et c'est enrichissant.
Silence, intimité avec Dieu, introspection, mais avec le groupe.
Avec le groupe en même temps. Dans une même pièce, c'est formidable et c'est très impressionnant pour moi. C'est une expérience très, très... très nouvelle pour moi. J'ai jamais vécu ça.
Une participante au rassemblement organisé jusqu'au 2 janvier à Rome par la communauté écuménique de Thésée. À Rome, où la nuit de la Saint-Sylvestre est également marquée par une veillée de prière au flambeau place Saint-Pierre pour la paix dans les familles et entre les nations, organisée par le mouvement de l'amour familial de 23h30 à 7h du matin. Plusieurs dizaines de personnes ont occupé lundi matin l'Annonciature apostolique à Paris pour soutenir un mouvement d'immigrés sans papiers, le 9e collectif des sans-papiers, et demander leur régularisation. Les manifestants ont tendu une banderole par une fenêtre de l'hôtel particulier qui abrite la représentation diplomatique du Vatican, portant cette phrase « Jésus défendait l'étranger pour tes frères sans-papiers chrétiens ». Qu'as-tu fait ? Cette action avait pour but d'attirer l'attention sur la grève de la faim observée depuis plusieurs semaines à Lille par une cinquantaine d'immigrés sans papiers qui ont été évacués vendredi de l'église Saint-Maurice. Une évacuation qui embarrasse l'église locale. Écoutez Monseigneur Gérard Colliche, évêque auxiliaire de Lille. Il est interrogé par Justine Vassogne.
Pour nous, c'est une grosse question. Moi, je réponds qu'il y a beaucoup de chrétiens militants avec eux, qui les accompagnent, qui les soutiennent, mais que on ne peut pas tout accepter. Ce n'est pas rendre service aux sans-papiers que de les inciter à poursuivre une grève de la faim, dont on se demande d'ailleurs par qui elle a été décidée, et donc ce n'est pas les respecter eux-mêmes dans leur propre démarche. Le fait de se retrouver avec des personnes qui sont en situation difficile, délicate, et en plus, pour ceux qui font la grève, fragiles au point de vue de leur santé, ce n'est pas très sérieux de les pousser à bout dans ce type de démarche qui est un peu une impasse. D'autant qu'il faut savoir que ces sans-papiers ne sont pas à la rue. Ils ont des logements. C'est donc vraiment une démarche qu'ils font de faire une grève de la faim sur le trottoir pour provoquer la décision qu'ils ont envie d'avoir.
Mais est-ce que vous ne pensez pas que cela peut choquer des catholiques de voir que l'Église évacue des sans-papiers ?
Évidemment, depuis cette décision de vendredi, puisqu'en fait c'était une évacuation de quelques heures où ils étaient dans l'église, Bah, nous avons eu des critiques de par cette situation. Donc, ce n'est pas évident. En même temps, nous estimons que ce n'est pas rendre service à ces personnes qui font la grève de la faim, de les pousser à bout. Et c'est aussi un service qu'on peut leur rendre. D'ailleurs, les quelques contacts que notre équipe, les chrétiens qui sont sur le terrain, ont avec eux, montrent que certains s'aperçoivent qu'ils sont un peu dans une impasse.
Est-ce qu'on peut dire que l'Église, finalement, est instrumentalisée dans cette affaire ?
On aurait très bien pu imaginer de chercher avec eux une solution pour qu'ils aient un lieu où ils puissent continuer leur grève de la faim, où ils seraient en situation de bonne installation, sans que ça soit automatiquement une église. Il est tout de même curieux qu'à chaque fois qu'il y a une démarche de ce type-là, c'est toujours vers les communautés chrétiennes qu'on se tourne, parce qu'ils estiment qu'effectivement, à chaque fois, nous allons accepter ce qu'ils exigent. Alors, c'est vrai, on est coincé. On est coincé.
C'était Mgr Gérard Coliche, évêque auxiliaire de Lille. Et toujours en France, un incendie a endommagé dimanche soir les premiers et deuxièmes étages de la maison diocésaine Saint-Irénée à Lyon. La bâtisse du XVIIIe siècle abrite les locaux de la radio RCF, Radio Chrétienne en France, et des bureaux du diocèse. Le feu s'est déclaré vers 20h dans une partie mise à la disposition de personnes sans abri en grande précarité dans le cadre du plan Grand Froid. Aucun blessé n'est à déplorer, mais les quelques 90 personnes hébergées, dont une trentaine d'enfants, ont dû être évacués. Peu avant minuit, un gymnase a été ouvert pour les accueillir provisoirement. Bienheureux les artisans de paix, c'est le thème choisi par le pape pour la 46e journée mondiale de la paix célébrée le 1er janvier 2013. Son message a été qualifié de concret, positif et pédagogique. Dans le difficile contexte actuel, Benoît XVI encourage tous les hommes à se sentir responsables de la construction de la paix. Cela veut dire promouvoir la vie en plénitude dans son intégralité. Le texte attire l'attention sur les problèmes les plus urgents. Le mariage, le droit à l'objection de conscience, la liberté religieuse, le chômage, la crise financière, mais aussi spirituelle et morale, ainsi que la crise des institutions, le rôle de la famille dans l'éducation. Il appelle de ses voeux la formation de classes dirigeantes adéquates et l'étude de nouveaux modèles économiques et financiers. En clair, le pape renouvelle l'exigence d'une régulation du capitalisme financier. L'humanité ne peut pas atteindre la paix sans développement intégral, social, communautaire, entendu comme un droit et un devoir. Pas de paix pour la communauté chrétienne du Nigeria. L'année 2012 s'achève par un énième massacre. Vendredi, 15 chrétiens ont été égorgés chez eux, dans leur sommeil, dans le petit village de Mouzari, dans le nord-est, une région majoritairement musulmane. Les rescapés de cette attaque et les organisations humanitaires qui ont souhaité garder l'anonymat pointent du doigt les extrémistes de la secte islamiste Boko Haram. Olivier Bonnel.
Selon les témoignages, les assaillants sont arrivés au cœur de la nuit sans faire de bruit, alors que tous les habitants du village dormaient. Quand les premiers cris ont retenti, il était déjà trop tard. Les victimes ont été choisies en fonction de leur appartenance religieuse. Certaines avaient déménagé dans le quartier pour fuir d'autres régions touchées par Boko Haram. Le groupe vise régulièrement des chrétiens en menant des attaques contre des églises. Pendant une messe de Noël, la semaine dernière, des hommes armés ont attaqué une église dans l'état de Yobe, tuant 6 personnes, dont le prêtre, avant de mettre feu au bâtiment. Dans une interview à Radio Vatican, le président de la Conférence des évêques catholiques affirme que ces persécutions n'ont pas entamé la ferveur des chrétiens. Au contraire, souligne Mgr Kaigama, elle s'est renforcée. L'archevêque de Jos reconnaît que l'année 2012 a été très difficile. Les attaques diaboliques contre les églises se sont multipliées. Les islamistes qui frappent surtout au moment des messes. Les églises sont visées quand les chrétiens s'y réunissent pour prier. Ils tuent, mais ils ne peuvent pas faire mourir notre foi, poursuit l'archevêque de Jos. Au Nigeria, les chrétiens ne baisseront pas les bras. Hommes, femmes, enfants, ils ne se laissent pas intimider et continuent à aller à la messe et à pratiquer leur foi. La plupart d'entre eux n'ont pas peur, assure Mgr Kaigama. Leur foi est solide et ils veulent vivre en paix avec les musulmans.
Et en Libye, une explosion a fait 2 morts et 2 blessés samedi soir dans une église copte orthodoxe près de la grande ville portuaire de Misrata. 2 assaillants inconnus ont lancé une grenade à la fin de la messe au moment où les fidèles sortaient de l'église. Le Caire a condamné cette action et demandé la mise en place de mesures de sécurité adéquates. L'enquête est en cours. En Libye, la plupart des chrétiens sont étrangers, dont une grande partie venue d'Égypte, où les Coptes sont la plus importante minorité religieuse. L'insécurité est une source d'inquiétude grandissante en Libye. Les nouvelles forces policières et militaires peinent à faire face aux milices fortement armées. Le pays a connu une série d'attaques attribuées à des islamistes radicaux. La plus meurtrière a coûté la vie à l'ambassadeur américain à Benghazi. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur Facebook. Encore une fois, la rédaction francophone de Radio Vatican vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2013.